discussion du soir. Les discussions du soir, Frédéric Worms.
Bonsoir. Ce soir, je suis heureux de discuter avec Mireille Delmas-Marty. Mireille Delmas-Marty qui a enseigné le droit au Collège de France, professeure au Collège de France. Bonsoir Mireille Delmas-Marty.
Bonsoir.
Je suis très heureux de vous recevoir ce soir. Nous allons parler de différentes façons des rapports du droit et du monde d'aujourd'hui et du droit d'aujourd'hui. Et je voudrais commencer, Mireille Delmas-Marty, en vous interrogeant sur un des aspects de toute votre œuvre, de tous vos livres. Vous en avez écrit beaucoup et dans les dernières années également un certain nombre. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est la manière dont vous suivez le train du monde, l'actualité du monde, le mouvement du monde. C'est-à-dire le droit pour vous accompagne l'actualité.
Oui, c'est-à-dire que j'ai toujours eu la peur de m'éloigner trop du monde réel. C'est-à-dire le droit, c'est un monde qui peut devenir assez facilement un monde fictif. Et c'était ma crainte. Donc j'ai toujours essayé de mettre en interface, et je dirais même en interaction, les principes théoriques que j'étudiais dans le droit, leur belle composition géométrique, presque esthétique dans certains cas, et puis le monde réel tel qu'il est. Et au fond, dans tous mes livres, un peu en arrière-plan peut-être, je me pose la question, que peut le droit ?
Que peut le droit ? Mais Mireille Delmas-Marty, en suivant l'actualité comme ça, on prend toujours un risque. C'est aussi le risque de ces discussions, le risque de, au fond, d'être vite...
D'être dépassé.
D'être dépassé, oui. Voilà, d'être un peu dépassé. Et je me reportais pour préparer cette discussion à des livres qui ont précédé celui dont nous allons le plus parler. Et tantôt on se dit la prédiction s'est réalisée. C'est souvent quand c'est une prédiction d'ailleurs un peu sombre. Tantôt on se dit au contraire, on a déjà oublié l'événement dont vous parliez. Ouais. Comment est-ce que vous pensez ce risque de se confronter à une actualité qui change sans cesse ?
Mais je crois qu'il faut s'exposer. Exposer, c'est aussi s'exposer soi-même. Ouais. Et je pense qu'on ne peut pas séparer le droit du monde réel. Sinon, il n'a plus beaucoup de sens. Alors, j'essaye de tester, au fond, ce que je dis à la lumière des événements. Alors, c'est vrai qu'il y a une continuité et une discontinuité en même temps. Il y a une continuité quand même qui me paraît très nette sur tout ce qui est en mouvement. C'est-à-dire au fond, dès mes premiers livres qui n'étaient plus des manuels mais qui étaient devenus des essais, j'essayais de réfléchir sur les transformations, sur les mutations.
Les transformations du droit.
Dans un livre qui est paru en 1994, je crois, Pour un droit commun. En fait, je n'utilisais pas le terme dynamique de la mondialisation. Je n'avais pas encore travaillé sur ces questions de mondialisation. Mais je parlais de la recomposition d'un paysage. Et c'était déjà un mouvement. Mmh. Et au fond, ça, c'est une sorte de continuité. Et ce qui a commencé à bouger à l'époque, je parlais de l'enlèvement des bornes, ça bouge encore plus aujourd'hui. Le surgissement des sources, il surgit des sources absolument partout. Dans le domaine juridique.
Les sources du droit, c'est-à-dire les autorités, finalement, qui rendent le droit légitime, les expériences, les niveaux du politique, les niveaux du monde.
Oui, puis tout simplement le jaillissement de normes nouvelles. On est dans une société...
Depuis des institutions.
Qui est de plus en... Les normes et les institutions.
Et les institutions.
Et ça, c'est quelque chose qui s'est vérifié. Alors, vous dites que... C'est souvent un monde un peu noir que je décris.
Non, je dis que dans vos prédictions, il y avait des prédictions positives, des prédictions optimistes ou pas optimistes, mais simplement des espoirs, et puis aussi des craintes. Et ce qu'on a un peu l'impression d'éprouver aujourd'hui, c'est que ce sont surtout les craintes qui se sont réalisées. Mais au contraire, je pense que dans tout votre travail, et en particulier même dans ce moment d'aujourd'hui, qui pourrait paraître un peu plus sombre encore, au contraire, vous maintenez des lueurs d'espoir, des lumières dans la nuit, en quelque sorte, pour nous guider. Cette image va revenir souvent dans notre discussion. Et au contraire, non, mais je pensais simplement à cette sorte d'engagement, d'exposition au changement et à la manière dont, du coup, rétrospectivement, on peut lire certains de vos livres antérieurs.
Oui, mais c'est vrai que je suis plus pessimiste maintenant que je ne l'étais au début, mais je m'attache quand même toujours. C'est pour ça que j'ai pris le tableau de Vera da Silva comme emblème de la série de mes cours au Collège de France, parce que je m'attache toujours à trouver quelque part une issue. Il y a un de ces tableaux qui s'appelle l'issue lumineuse.
L'issue lumineuse.
Et je trouve fascinant que dans la peinture de Vera da Silva, il y a souvent des mondes assez complexes. Ce sont soit comme des grandes bibliothèques, soit comme des villes extrêmement construites, imaginaires et apparemment très fermées. Mais il y a toujours quelque part, alors c'est plus ou moins grand, plus ou moins loin, mais il y a toujours quelque part une issue lumineuse. Simplement, c'est vrai que dans sa peinture, j'ai constaté, alors c'est peut-être un écho à ce que vous dites, que l'issue recule et devient plus petite. Le tableau que j'ai pris comme emblème de mes cours s'appelle « La voie de la sagesse ». L'issue lumineuse, il y en a un autre qui s'appelait « L'issue lumineuse » avant, mais là, l'issue a reculé, elle est beaucoup plus petite.
La sortie du tunnel, l'issue lumineuse. Voilà. Mais juste avant de revenir à la situation du monde et aux issues que vous y voyez, car elles y sont encore, Mireille Delmas-Marty, je me demandais, dans ce rapport à l'actualité, pour vous, est-ce qu'il y a un rapport de connaissance, de transformation objective de votre domaine d'études, le droit, les institutions? Mais est-ce qu'il y a aussi une dimension d'engagement personnel dans votre choix de suivre l'actualité? Est-ce qu'il y a aussi l'idée que le juriste, le savant, le spécialiste de sciences de l'homme, qui a sa compétence, sa rigueur, doit non seulement adapter son savoir, mais aussi s'engager personnellement?
Oui, c'est pas une question, je le vis pas comme une obligation, comme un devoir, ça me paraît assez naturel. Il faut dire que ma première spécialité dans le domaine juridique, c'était le droit pénal. Et c'était plus particulièrement le droit pénal des affaires. C'est-à-dire un domaine du droit pénal qui est peu connu, qui était peu enseigné à l'époque. Et c'était un peu un domaine théorique dont on avait l'impression qu'il existait sur le papier, mais qui n'existait pas dans le monde réel. Donc ça m'a amené à cette interrogation sur l'écart que j'observais dans ce champ assez limité,
spécialisé.
J'observais un écart entre le droit tel qu'on l'enseigne, tel qu'on le lit dans les codes, et puis la réalité qu'il produit ou sur laquelle il a peu d'influence, il a peu de poids. Et c'est ça qui m'a amenée. Et au fond, par la suite, mon champ de réflexion s'est élargi assez naturellement, parce que le droit pénal des affaires, ça m'a amené à réfléchir sur le droit pénal comparé. Qu'est-ce qui fait que ce qui est pénal en France est sanctionné autrement, peut-être d'une sanction civile ou d'une simple arbitrage dans un autre pays? Donc ça m'a amené sur le droit comparé, ça m'a amené sur le droit international, et puis ça m'a amené à observer de plus en plus ces mouvements.
Mais à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, Mireille Delmas-Marty, que cette observation du changement requérait aussi un engagement du juriste dans pas de l'action directe dans ces changements, mais néanmoins pour dessiner justement des orientations, une issue,
parce que j'étais sollicitée, alors il s'est trouvé que j'avais fait très vite un manuel de droit pénal des affaires, parce que j'avais fait une thèse dans le domaine du droit pénal de la construction. Et j'avais constaté que le droit pénal des affaires n'existait pas encore. Au fond, je dis, ma vie, j'ai travaillé sur ce qui n'existait pas.
Ça n'existe pas encore.
Et le droit pénal des affaires, j'ai donc fait un manuel peu après l'agrégation, ce qui n'était pas l'habitude. Et puis, quelques années plus tard, il se trouve que Robert Badinter, à l'époque, a commencé à enseigner le droit pénal des affaires lui-même à Paris 1. Et quand il est devenu ministre de la Justice, il m'a demandé de faire partie d'une commission qu'il a créée pour la révision du code pénal. Donc là, ça me donnait un accès à un autre univers, d'une certaine manière.
Ce que je trouve très fascinant dans ce que vous dites, Mireille Delmas-Marty, aussi, il y a un point qui me frappe beaucoup dans ce rapport à ce moment-là entre les savoirs et le monde. C'est au fond le lien entre la recherche, qui découvre des nouveaux problèmes, et l'action passe justement par la recherche. C'est-à-dire que vous découvrez des problèmes qui ne sont pas encore traités, et du même coup, vous anticipez sur l'état du monde. Et donc, vous avez anticipé sur l'internationalisation du droit pénal des affaires, et puis peu à peu sur la construction d'un droit international. Vous vous situez toujours aux marges, vous êtes une veilleuse, au fond, sur les choses incertaines, indistinctes, et cet effet d'anticipation permet aussi de donner à la recherche scientifique un rôle concret, en fait.
Oui, quand je dis que je travaille sur ce qui n'existe pas, c'est un peu caricatural. Je travaille sur ce qui existe à peine.
À peine.
Et c'est ça qui m'intéresse. Quand le droit pénal des affaires est devenu une matière, une discipline en tant que telle, ça m'intéressait moins. C'était
plus.
Bien balisé, ça continue à m'intéresser, ouais, comme exemple ici ou là, mais ça m'intéressait moins. Ce qui m'intéressait, c'était d'observer comme les frémissements, comme les fluctuations primordiales, mm-hmm, si on parle en astrophysique, ce qui est très prétentieux de ma part. Mais après le droit pénal des affaires, donc ça a été la politique criminelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que ce qui est pénal est administratif ailleurs, civil ou traité par une mesure de police. Mm-hmm. Et puis la politique criminelle m'a amené à constater qu'il y avait des mouvements dans tous les sens. Tantôt c'est plus d'État, tantôt c'est moins d'État, on sociétalise. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui ordonne ces mouvements? Et là, alors je suis arrivée à l'observation d'un domaine du droit qui n'était pas du tout enseigné à l'époque, qui n'était pas considéré vraiment comme du droit, c'est le domaine des droits de l'homme, qui sont devenus un droit des droits de l'homme, mais assez tardivement, puisque en réalité, le concept de droit des droits de l'homme, il est apparu en même temps que le droit s'est internationalisé avec la ratification de la Convention européenne des droits de l'homme, et avec la reconnaissance par la France du recours, oui, devant la Cour. Et puis en même temps, quand le droit s'est constitutionnalisé, il ne faut pas oublier que c'est récent tout ça.
Oui, ce qui est très frappant, c'est que les droits de l'homme étaient des principes philosophiques,
voilà, de philosophie
politique au fond, quand mais, même institués parfois, déclarés par des institutions. Ils n'avaient pas force
utiliser.
De droit, comme
voilà.
On dit.
On ne pouvait pas construire une argumentation devant un juge.
Sans réclamer devant un juge.
Uniquement, par exemple, sur la base de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.
C'est quand elle a été inscrite dans la Constitution, finalement, on peut s'en réclamer aujourd'hui comme d'une règle de droit, au fond.
Oui, et c'est aussi quand le Conseil constitutionnel a fait entrer dans le bloc de constitutionnalité l'ensemble de ces textes.
Donc ce qui vous intéresse aussi, c'est la manière dont un principe philosophique ou un problème concret, d'ailleurs, des deux côtés extrêmes finalement, une idée humaine ou bien un problème humain, rentre dans le droit. Et là, le droit devient un moyen d'action, on peut s'en réclamer, on peut agir, et il y a un retour vers le monde, une transformation,
oui,
du monde.
Alors,
par le droit aussi.
Peut-être de l'éthique au droit, mais il y a aussi l'inverse.
C'est-à-dire du droit vers l'éthique.
Oui, parce que je vais vous donner un exemple que je trouve assez intéressant. C'est la notion de crime contre l'humanité.
Ah oui.
La notion d'humanité n'est pas définie par les philosophes.
Certains ont tenté de le faire quand même.
Mais pas comme notion utilisable.
Oui.
De façon juridique.
Tout à fait.
Donc je pense qu'on fait entrer ce concept dans le champ juridique, mm-hmm, alors qu'on ne connaît pas la définition philosophique qui pourrait sous-tendre. Il y a plusieurs. Disons qu'en réalité, il n'y a pas aucune définition, il y a beaucoup de définitions.
C'est ça.
Et du coup, c'est très difficile d'en faire une construction juridique.
Mais justement, ça rejoint un peu ce qu'on était en train de dire. C'est que, par exemple, si on prend les droits de l'homme d'un côté et le crime contre l'humanité de l'autre, ce sont deux manières différentes dont l'humanité entre dans le droit. D'un côté,
oui,
on pourrait dire qu'il y a un principe philosophique, les droits, mmh, de l'homme, et puis peu à peu, ils deviennent concrets,
oui,
utilisables,
exactement,
concrètement. D'un autre côté, il y a un acte, mmh, un crime.
On
il faut le nommer. Et là, certains juristes, justement, inventent une notion d'humanité pour répondre à un acte concret qui a transgressé, qu'aucune qualification juridique ne pouvait épuiser auparavant. Et tout à coup, finalement, c'est plutôt par l'acte, par le concret, que l'humanité entre dans le droit. Donc, au fond, vous vous situez toujours dans cette charnière où il y a un événement majeur. Il peut s'agir d'un crime, ou bien d'un changement du monde, ou bien d'un événement concret, d'un côté, ou bien au contraire d'une théorie philosophique, et comment ça fait droit et comment par le droit finalement nous construisons le monde commun, Mireille Delmas-Marty. Est-ce que c'est un peu ça? Toutes ces sources du droit,
fond,
vous pluralisez encore plus les sources du droit que ne font d'habitude les juristes.
C'est un jeu d'interaction. Je vois ça comme un jeu d'interaction. C'est-à-dire que c'est jamais parfaitement statique.
Mais pourquoi est-ce que pour vous, bien sûr, vous êtes juriste, mais pourquoi est-ce que pour vous, le droit est le cœur de tout ça? Qu'est-ce qui, dans le droit, fait que les mouvements de l'humanité doivent passer par le droit?
Ah, je ne crois pas que le droit soit le cœur de tout ça.
Non, peut-être pas le cœur, mais un foyer humain fondamental.
Je crois que c'est un révélateur extraordinaire. Ça peut être un perturbateur aussi, dangereux.
Pourquoi ?
Et ça peut être un régulateur.
À votre avis ?
Le droit peut être perturbateur. Il y a quelque chose, par exemple, qui me trouble. On parlait de l'humanité. C'est quand on a séparé dans le code pénal le crime contre l'humanité et le crime contre l'espèce humaine.
Ah, ça, là, je trouve le crime contre l'espèce humaine,
c'est pas la même chose que le crime contre
l'humanité. Est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple du crime
contre
l'espèce
humaine ? C'est le génisme, par exemple.
Le génisme, c'est un crime contre
l'espèce humaine. Le clonage, s'il était commis, s'il était possible sur les humains, pas le clonage reproductif des animaux, mais le clonage reproductif des humains. Ont été qualifiés par le législateur de crimes contre l'espèce humaine avec une peine qui est légèrement moins lourde que celle du crime contre l'humanité. Alors, moi, je trouve que je trouve que là, c'est perturbateur et ça peut avoir des effets négatifs de séparer l'humain, l'humanité au sens, en fait, de la culture humaniste, de l'espèce biologique. Mais... Donc, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est celui qui me venait à l'esprit pour illustrer ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le plus souvent, le droit est révélateur d'un état de la société.
Mais Myriam Denas-Marty, c'est très important ce que vous venez de dire en même temps, parce que, en même temps que le droit va nous permettre de penser le monde et ses transformations, et on va y venir sur la mondialisation, sur la situation d'aujourd'hui, dans votre dernier livre, aux quatre vents du monde, hein, donc c'est vraiment aussi le monde vivant, le monde concret. En même temps, évidemment, un peu comme tout savoir, il progresse en se compliquant, en se précisant. Et quand, effectivement, vous dites, on ne porte pas atteinte à l'humanité de la même façon quand on transgresse, non pas une nature biologique, mais en tout cas des pouvoirs de la science, par des inventions comme le clonage ou qui peuvent mutiler l'humanité dans quelque chose de fondamental, d'un côté ou d'un autre côté par un meurtre de masse, il a bien fallu que le droit invente deux notions. Le crime contre l'humanité était réservé à certains crimes de masse, et effectivement, cloner l'humanité, cloner le genre humain, c'est une violence aussi, mais d'un autre genre. Donc le droit doit en même temps... simplifier, fournir des repères, et il le fait en se compliquant et en nous compliquant un peu la vie, mais pour nous la simplifier, en un sens.
Oui, c'est vrai que le droit à l'heure actuelle est d'une très grande complexité et on peut le trouver compliqué. Alors, quand je dis complexité, je pense un peu dans le sens d'Edgar Morin, c'est-à-dire une construction qui est faite d'interaction plus que de hiérarchie. On a l'habitude, quand on parle du droit, quand on pense au droit, à penser une structure assez simple, hiérarchique, oui. Statique.
Un peu comme la loi, la constitution.
La fameuse pyramide des normes
qui va de la constitution jusqu'aux règles les plus...
Jusqu'à la circulaire.
La circulaire. On le premier tissé de droit, mais d'une façon ordonnée quand même.
Voilà. Et le syndicat de la magistrature avait dit, en réalité, c'est la circulaire qui a le plus d'importance et la constitution qui en a le moins. Alors le débat reste ouvert. Mais en tout cas, il y a le sommet et la base.
Le sommet et la base du droit et de nos vies, en un sens.
À l'heure actuelle, ce qu'on voit se développer, c'est pas tout à fait ça, parce qu'on a le droit interne, le droit des pays, le droit national, et puis on a des droits internationaux multiples, le droit international des droits de l'homme, de l'environnement, du travail, du commerce, de l'économie, etc. Et il n'y a pas une hiérarchie claire. Le droit international n'est pas toujours supranational. Il est souvent fait de la conjonction, de certaines convergences des droits nationaux de façon ascendante.
Et finalement, la voie que vous suivez, Mireille Delmas-Marty, pour toujours être un peu dans ce fil qu'on prend là dans cette discussion, la voie que vous suivez pour unifier un peu tout ça, c'est pas une voie systématique, une voie de la théorie qui mettrait de l'ordre dans tout ça de manière un peu statique, c'est plutôt une voie dynamique, historique, par les évolutions, par la préscience, en regardant au fond, aux pointes du droit, ce qui change et qui donne sens à notre monde, et finalement, plutôt que d'opposer complexité et simplicité, plutôt opposer obscurité et lumière, changement et repères, et par là nous faire du droit quand même une boussole ou une orientation possible dans un monde qui est encore plus obscur que lui, parce que le monde est encore plus compliqué que le droit.
Certes. Alors pour vous répondre, Frédéric Worms, je dirais que le droit n'est pas statique, mais qu'il est un instrument pour stabiliser.
C'est ça.
Alors, c'est une stabilité qui est toujours provisoire, fragile, temporaire, mais dont on a besoin. Et c'est ça qui est utile dans le droit. Il ne faut pas considérer le droit comme tout puissant. Je crois que ce serait dangereux.
C'est finalement, ce serait confondre le droit et la politique.
Oui, absolument. Mais en revanche, il faut voir que le droit offre un instrument beaucoup plus, parce qu'il est complexe, qui peut être beaucoup mieux adapté à une réalité qui est elle-même complexe et mouvante. Mais à condition d'accepter l'idée que le droit change et que le droit n'est pas figé une fois pour toutes dans les codes. Ce qui est gênant de ce point de vue-là, ce qui nous enferme un peu, nous les juristes, c'est le langage, parce que tout le langage juridique est un langage statique. Mmh. On a parlé ensemble de la pyramide,
la constitution,
mais il y a les piliers, les fondations, les fondements,
le droit lui-même, les droits fondamentaux.
Alors, on a parlé de source aussi tout à l'heure. C'est une métaphore différente parce qu'elle est plus fluide.
Voilà.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on en parle dans certains manuels de droit, on parle des sources fondamentales. Donc on réintroduit le statique.
On ne peut pas ne pas penser statiquement. Certains philosophes l'ont montré. La fluidité est difficile à penser. Et en même temps, aujourd'hui, le monde dont vous parlez, ça n'est justement pas un monde statique. Il est plus changeant que jamais. Vous prenez le monde très au sérieux, littéralement. C'est un monde vivant, un monde fluctuant, un monde qui est aussi le monde de l'écologie, le monde où l'humain redevient un vivant. Et là-dedans, l'homme comme être rationnel, comme être qui passe des accords, qui définit des règles, doit trouver une boussole, mais justement aux quatre vents du monde. Entendre Mireille Delmas-Marty, une partie d'un morceau pour piano de Bussy, Ce qu'a vu le vent d'ouest. Et c'est en partie de Ce qu'a vu le vent d'ouest de Bussy, joué par une amie japonaise, m'avez-vous dit, qu'est venue l'idée de votre dernière réflexion, de la mettre sous le signe d'une rose des vents,
oui,
aux quatre vents du monde, c'est-à-dire finalement quelque chose d'encore plus mouvant qu'une boussole. C'est même pas des points cardinaux, ce serait encore trop statique pour vous, pour penser le monde d'aujourd'hui dans Aux quatre vents du monde, petit guide de navigation sur l'océan de la mondialisation. Vous dites qu'il faut se plonger dans ce qui est les tourmentes actuelles, ce sont des tourbillons, des tempêtes, mais en même temps on peut y distinguer des courants d'air précis, des vents, et on peut encore s'y repérer, et le droit peut nous y aider.
Oui, cette métaphore des vents, elle m'est venue de là, en effet, mais elle m'est venue en même temps de ce que j'avais plusieurs fois essayé de sortir de la métaphore de la pyramide des normes,
justement,
pour montrer l'instabilité. Alors, il y a la métaphore des réseaux, qui est plus horizontale que la pyramide.
Qui est très fréquente aujourd'hui.
Qui est très fréquente d'Internet. Aujourd'hui, mais qui reste assez stabilisatrice, mm-hmm, et stable même. Mm-hmm. Alors moi, j'avais utilisé carrément la métaphore des nuages, en disant les systèmes de droit, ce sont comme des nuages. Vous essayez de dessiner le nuage, il a déjà changé de forme. Vous essayez de dessiner ce qu'est le droit de l'Europe, par exemple, à l'heure actuelle. La forme aura déjà changé quand vous aurez fini le dessin. Et alors, ça m'avait amené à la question, qu'est-ce qui forme, déforme, transforme les nuages ? Mais c'est le vent, c'est le souffle. Et c'est ainsi que je rejoignais le vent d'ouest, mais pas seulement le vent d'ouest. Et comme vous le dites, ça m'a donné l'idée de la rose des vents, mais ce n'est pas une rose des vents qui se superpose à la boussole nord-sud-est-ouest, parce qu'au fond, ce à quoi je tiens dans le livre, c'est que la rose des vents doit être lue comme une ronde des vents. C'est-à-dire
qui est mise en mouvement.
Une mise en mouvement du système. Et on ne choisit pas comme on choisit quand on navigue, on va au nord ou au sud, on va à l'est ou à l'ouest. Tandis que là, entre les quatre vents du monde, ou les huit qui sont derrière, on ne choisit pas, on essaye de les concilier.
Alors, Mireille Delmas-Marty, vous distinguez en effet quatre courants d'air principaux, quatre tourbillons principaux, et puis quatre autres, un certain nombre de vents.
Alors, je prends souffle au sens de pneuma, le souffle et l'esprit en même temps.
Toutes les images circulent, et d'ailleurs, de façon très harmonieuse et très cohérente, à mon avis, qui nous dit quelque chose sur notre condition aujourd'hui. Je vous poserai la question dans un instant, Mireille Delmas-Marty. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'en fait, votre livre ne met pas seulement de l'ordre dans le monde, même mouvant avec ses quatre courants d'air ou même ses quatre tours d'esprit. Surtout, il s'intéresse vraiment concrètement au monde, tel que nous le connaissons, à travers un cas très particulier qui est le dérèglement climatique. Votre livre s'ouvre et se ferme sur l'événement de la COP21 à la fin de l'année 2015 à Paris, qui, d'une certaine façon, pour vous, n'est pas une réponse parmi d'autres, à une catastrophe parmi d'autres. Il y a d'autres catastrophes qui font bouger le droit, les attentats terroristes, mondialisation économique, un certain nombre d'enjeux, mais pour vous, finalement, la catastrophe climatique possible est celle qui est le plus concrètement affrontée par le droit aujourd'hui, et c'est la manière dont il y a de nouvelles règles de droit qui ont surgi à la COP21 qui vous paraît emblématique de la manière d'affronter le monde par des instruments humains et de finalement construire un monde humain par les hommes eux-mêmes.
Oui, à la fin, je vais jusqu'à dire que le dérèglement climatique pourrait être une chance.
Voilà, vous dites très clairement, il se peut que le dérèglement climatique soit une chance pour l'humanité.
Une chance, alors ça peut paraître un peu paradoxal, parce qu'on connaît les catastrophes qui nous sont annoncées par climatologues à une échéance qui peut être plus courte qu'on croit, ou qui peut être plus longue, peu importe. Mais je dis une chance pour l'humanité parce que, il me semble que ce dérèglement climatique, il a suscité des réactions un peu dans toute la société. Il a mobilisé, notamment, c'était très visible en 2015, il a mobilisé toutes les composantes de la société, et notamment la société civile, les citoyens. Les citoyens, les églises, le pape lui-même s'est manifesté, un certain nombre d'organisations non gouvernementales ont été très actives. L'idée d'une citoyenneté du monde qui peut paraître un rêve abstrait est devenue quelque chose de concret dans ce domaine-là. Et du coup, les autres acteurs, les grands pouvoirs, alors les pouvoirs économiques d'un côté, les pouvoirs politiques de l'autre, ont commencé à bouger aussi. Et on vient de voir tout récemment maintenant, donc en 2016, que la Chine et les États-Unis ont fini par ratifier l'accord de Paris. Donc il y a quelque chose qui a bougé, et le sentiment que j'ai eu, c'est que peut-être que au-delà même de la question du dérèglement climatique, il y avait une sorte de prise de conscience du fait que nous appartenons à la même planète, que notre sort est lié, qu'il y a une interdépendance de plus en plus étroite entre les humains et entre les États d'ailleurs aussi. Et que si on n'organise pas cette interdépendance, ce sera le chaos. En revanche, si on réussit à l'organiser, on peut se bâtir quelque chose comme un destin commun. Alors c'est un pari qui n'est pas gagné, hein, je le dis tout de suite.
Alors ce qui est très frappant pour moi, Mireille Delmas-Marty, c'est qu'au fond, c'est l'événement le plus concret dans le monde en apparence, c'est-à-dire vraiment le climat, la survie de l'espèce, la survie matérielle, biologique de l'humanité, qui force l'humanité à se constituer en espace juridique, politique, comme si tout le reste, dans l'entre-deux, il y a les guerres, il y a les conflits économiques, il y a des très grandes violences, mais c'est comme si finalement c'est ce risque un peu ultime tout à coup qui force l'humanité à se constituer elle-même comme espace juridique et à surmonter et même à se servir de ses propres tensions. C'est-à-dire, vous expliquez très bien que la force de la COP21, c'est d'avoir pas pensé seulement un droit mondial d'en haut, s'imposant aux États, mais aussi d'en bas, pas seulement d'ailleurs d'en haut et d'en bas, mais horizontal, avec les associations, tous les acteurs. Et finalement, c'est ce problème global qui donne un modèle possible.
Qui donne un modèle possible et des techniques juridiques possibles. De façon très concrète, il y a ce concept de responsabilité commune, mais différenciée.
Alors, est-ce que vous pouvez en dire un petit mot, Delmas-Marty ? Parce qu'en effet, c'est le point très concret qui fait pivoter le système.
Alors, c'est un concept qui avait été déjà inscrit dans les textes depuis le sommet de la Terre de Rio en 1992 et repris dans le protocole de Kyoto en 1997. Mais il avait été appliqué de façon très simpliste. C'est-à-dire qu'on avait dit, ben, il n'y a pas les mêmes responsabilités pour les pays industrialisés qui vont s'engager tout de suite avec un agenda de réduction des émissions tout de suite, et les autres pays, tous dans la même catégorie.
Donc, déjà, on ne s'était pas contenté du global, mais on avait fait des différences.
On avait fait une différence, mais elle était trop simple. Elle était trop sommaire. Alors, de façon plus subtile maintenant, ce qui est en train de se mettre en place, c'est un instrument qui pourrait devenir, dans d'autres domaines, je pense aux migrations, je pense aussi au terrorisme, je pense aux exclusions sociales, qui pourrait devenir une méthode de gouvernance mondiale. C'est-à-dire qu'on définit qu'est-ce qui est commun ? On définit des objectifs communs. On a réussi à se mettre d'accord sur l'objectif quantitatif, réduire au-dessous de 2 puis 1,5 degrés centigrades le réchauffement.
C'est un objectif à la fois d'ailleurs naturel et artificiel, scientifique et politique, sur lequel on s'accorde finalement.
Sur lequel on s'est accordé, ce qui est un objectif précis. Et puis en même temps, on a réussi à s'accorder, alors que ce n'était pas évident non plus, sur un objectif plus qualitatif qui est l'adaptation des sociétés, l'utilisation des nouvelles ressources énergétiques, des énergies alternatives, etc. Donc on a réussi à se mettre d'accord, 195 États, ce qui n'est quand même pas rien, sur des objectifs communs. Mais pour ce qui est de la manière de réaliser ces objectifs, les responsabilités sont différenciées.
Par État.
Différenciées, ça veut dire, moi je dirais contextualisées, c'est-à-dire qu'on réintroduit le contexte qui est forcément différent à l'heure actuelle. Quand on compare un tout petit État avec les géants que sont les États-Unis ou la Chine, on peut comprendre assez facilement qu'on ne peut pas imposer partout l'intégration des nouveaux objectifs à la même vitesse. Les normes ne peuvent pas être intégrées au droit national à la même vitesse. Et il faut tenir compte aussi du contexte historique. On ne peut pas nier la dette écologique de certains pays par rapport aux autres. Il faut tenir compte du contexte politique, du contexte économique. Les pays qui n'ont jamais connu la croissance, c'est difficile de les obliger en même temps que ceux qui ont exploité les ressources pendant des années.
Mais alors, Mireille Delmas-Marty, ça c'est passionnant parce que c'est la manière dont le droit et concrètement les négociations ont permis d'articuler deux niveaux très importants, le niveau global et puis les différences, les contextes nationaux, et puis vous montrez aussi comment tous les acteurs interviennent. Un point qui me frappe beaucoup aussi, c'est le rapport au vivant, à la nature, à l'écologie. On a parlé un peu de la mondialisation économique et du droit, il y a le problème aussi de la mondialisation juridique, là, auquel on trouve maintenant un principe concret, et puis du monde vital, du monde vivant, du monde concret. Vous me disiez, au cœur de votre rose des vents, dans le pivot de votre rose des vents, vous avez placé une antinomie, un peu comme celle du global et du national, une antinomie possible entre dignité humaine, d'un côté, un principe universel, et solidarité planétaire. Mais est-ce que ces deux termes sont vraiment antinomiques ou bien non. Est-ce que plutôt
c'est
vous
pas une antinomie pour moi.
C'est pas une antinomie.
C'est pas une antinomie. Ce que j'ai placé au centre, c'est l'idée que dans une boussole, il y a une polarisation. Dans la boussole que nous connaissons pour naviguer réellement, on a le nord.
Le pôle magnétique.
On a le pôle magnétique qui est au nord. Là, le pôle magnétique, il est au centre.
D'accord.
Et du coup, je me suis demandé qu'est-ce qu'on met déjà, sans le savoir, de façon implicite, qu'est-ce qu'on met au centre de la rose des vents. Et j'ai eu successivement deux réponses qui me sont venues à l'esprit. Je ne crois pas qu'elles soient antinomiques,
non.
Je crois qu'elles sont successives.
Voilà, non seulement je ne voulais pas dire qu'elles sont antinomiques, enfin, je durcissais un peu votre position, mais dignité humaine et solidarité planétaire, au fond, c'est du côté de l'humain. Et je voulais vous demander, Mireille Delmas-Marty, comment vous situez ces deux principes humains qui fondent ce qu'on pourrait appeler une cosmopolitique possible, une organisation de l'humanité, face à la nature elle-même. Est-ce que, pour vous, des écologistes qui diraient qu'il faut plutôt partir de la nature, protéger la nature et non pas partir de l'homme, il y a une responsabilité de l'homme à l'égard de la nature et non pas seulement une organisation de la vie humaine.
Mais je dis ça aussi.
Est-ce que pour vous, c'est complémentaire?
Mais je n'oppose pas l'homme à la nature, je dis que l'homme est dans la nature. C'est-à-dire, ce que je pose, mais plutôt je le vois comme une évolution, c'est qu'on a longtemps pensé l'humanisme comme un humanisme de domination, l'homme maître de la nature. Mmh. Et ma première réaction de mettre l'égale dignité des êtres humains au centre, c'était une réaction de ce type. C'est la même chose que de mettre la Terre au centre de l'univers, avec le soleil qui tourne autour de la Terre. Alors, après, je me suis dit, il faut reprendre la réflexion et, au lieu d'un humanisme de domination, penser à un humanisme d'interdépendance. Ça ne veut pas dire que l'homme disparaît, ça ne veut pas dire que l'homme est considéré comme un ennemi de la nature, ça veut dire que l'homme fait partie de la nature, donc il n'est plus en position de surplomb, et d'où ce concept de, ou ce principe de solidarité planétaire qui place l'homme dans la nature.
Mais justement, Mireille Delmas-Marty, pour dépasser l'homme vers la nature, il faut passer par l'organisation de l'humanité. Finalement, c'est dans la relation humaine qu'on peut s'ouvrir vers la relation à la nature, et les opposer serait une abstraction et même une violence.
Alors, je ne parle jamais de droit de la nature ou des animaux, parce que je pense qu'il n'y a pas de réciprocité possible.
Voilà, c'est la question que je voulais vous poser, justement, Mireille Delmas-Marty.
Il n'y a pas de réciprocité possible. Et je parle, en revanche, volontiers de devoir de l'homme à l'égard du vivant non humain.
C'est la manière dont le vivant non humain s'inscrit dans le droit humain. C'est-à-dire, finalement, ils ne sont pas extérieurs au droit. Il y a un devoir des hommes à leur égard.
Nous avons des devoirs.
Qui entre dans notre droit.
Voilà, mais je ne parlerai pas à leur propos de droit, parce que je pense que le droit, ça implique une réciprocité. Quand on parle de droit de l'homme, il y a une réciprocité entre les hommes de ce point de vue. Là, il y a des devoirs. Et donc, ce que j'ai placé au centre comme étant le pôle magnétique, c'est peut-être une sorte de passage progressif de la dignité humaine, donc l'homme seul, à la solidarité planétaire, l'homme comme élément d'un ensemble, d'un écosystème. Et on pourrait même imaginer solidarité cosmique, il n'y a pas que la planète Terre. Si nous sommes capables d'agir sur le cosmos, nous avons d'une certaine manière aussi des devoirs de solidarité.
Nos devoirs vont jusqu'aux étoiles.
Bon, ça va un peu loin, hein, peut-être au stade actuel, mais en tout cas, je crois qu'il y a un pôle magnétique qui n'est pas non plus statique, qui évolue à sa manière.
Absolument.
Mais qui est quand même un point de stabilisation de l'ensemble autour.
Finalement, vous dépassez une opposition entre deux extrêmes, Mireille Delmas-Marty. D'un côté, un droit humain qui ne s'ouvrirait pas au monde, à ces changements, et d'un autre côté, un extrême inverse qui opposerait au droit humain un droit d'une autre nature. Et vous montrez plutôt comment, par son évolution même, et par les crises elles-mêmes, par les dangers eux-mêmes, par les dangers extrêmes eux-mêmes, le droit humain s'ouvre au-delà de lui et permet de constituer l'humanité du même coup.
Oui, je crois qu'une des notions clés là-dedans, c'est la notion d'interdépendance.
Absolument.
Alors, nous sommes interdépendants, c'est vrai en ce qui concerne les êtres humains, c'est vrai en ce qui concerne les États. On continue à afficher une souveraineté autonome, indépendante, qui est très artificielle. En réalité, moi, je propose de parler pour les États de souveraineté solidaire et pas solitaire. Pour traduire ces interdépendances, même une superpuissance comme la Chine ou comme les États-Unis ne peut pas lutter seule contre le changement climatique.
Vous avez une formule très forte, Mireille Delmas-Marty, dans l'apologue qui termine votre livre, et on redira un mot de cet apologue après. Vous dites qu'à observer l'égoïsme à courte vue de la plupart des acteurs politiques, en commençant par les plus impuissants, il devient évident que leur impuissance va croître dans un monde de plus en plus interdépendant. Finalement, l'égoïsme conduit à l'impuissance. Et la fragmentation des systèmes juridiques conduit à une impuissance et à ces maux de la mondialisation que sont l'ultralibéralisme, le terrorisme. Et finalement, je crois que vous opposez une mondialisation par la fragmentation à une mondialisation, non pas par une unité abstraite, mais plutôt par des problèmes communs et des ressources en même temps partagées et des responsabilités partagées, mais partagées aux deux sens, c'est-à-dire à la fois communes et réparties.
Exactement. Et c'est au fond un peu, puisqu'on est dans le domaine du vivant, c'est un peu du bricolage. Et vous savez que François Jacob, quand il parle du vivant, parle de bricolage.
Il y a deux grands auteurs récents, évidemment, Mireille Delmas-Marty, qui ont parlé de bricolage. C'est du côté des sciences du vivant, François Jacob, et du côté des sciences de l'homme, Claude Lévi-Strauss. Ouais. Et vous-même, donc, du côté du droit, vous pensez que finalement, le droit se bricole à différents niveaux dans nos vies quotidiennes, quand nous passons des accords jusqu'au niveau mondial, et que le monde humain, c'est par le bricolage qu'on va affronter les plus grandes crises.
Oui, je crois.
Mais je le crois aussi par des accords minimaux en apparence sur des petits degrés de température qu'on fixe arbitrairement, dont l'enjeu n'est pas tant leur contenu, le degré, mais l'accord qu'ils produisent entre les êtres humains. Un accord maximal sur un problème minimal.
Oui, l'accord qui rend possible une avancée, une petite avancée. Vous savez, c'est ce qu'on disait souvent de l'Europe à petits pas, et qui évite ce que j'appelle dans le livre le poteau noir.
C'est ça. Alors, c'est cet apologue. Vous dites qu'en fond, la grande tourmente nous plonge aussi dans une grande impuissance, à la fois dont plus rien ne peut sortir. Et finalement, on disait tout à l'heure que certaines de vos prédictions antérieures sombres avaient pu se réaliser. Vous maintenez aujourd'hui cette petite lumière, cette issue lumineuse. Mireille Delmas-Marty, qu'est-ce que vous pensez maintenant de cette issue lumineuse, de ce petit vent sans nom qui peut entraîner tous les autres problèmes qui se posent à l'humanité, et que finalement, à la fin de 2015, il y a eu des attentats qui ont menacé des destructions majeures, une COP 21 qui a été une petite réussite en apparence. Est-ce qu'ils peuvent se contrebalancer ?
Ce qui est intéressant, ce qui s'est passé en 2015, c'est qu'on avait à la fois cette montée en puissance d'un terrorisme qui frappait maintenant la France, alors qu'on le voyait comme un peu loin de chez nous, et en même temps la tenue de cette conférence mondiale qui n'a pas été annulée.
In extremis, d'ailleurs, tout s'est joué là, finalement, peut-être, Mireille.
Et c'est les chefs d'État qui sont venus à Paris, malgré certaines menaces qu'ils pouvaient ressentir comme telles, ont marqué, à mon avis, comme les responsables politiques français qui ont organisé malgré tout la conférence, un sens des responsabilités qui me paraît rassurant. Ce qui me paraît moins rassurant, c'est la façon dont on refuse de voir le monde réel dans des domaines comme les migrations ou les exclusions sociales ou le terrorisme.
Alors justement, pour terminer, ce que vous opposez à la peur de la mondialisation avec ses fantasmes et ses fantômes, c'est un retour à une mondialité concrète. Votre apologue vient aussi d'Edouard Glissant, un penseur du tout monde, et répondre au fantasme de la peur de la mondialisation par le droit concret de la mondialité humaine. Est-ce que c'est à la fois poétique et juridique et philosophique?
Alors, quand j'avais rencontré Edouard Glissant, il ne comptait pas du tout sur le droit pour bâtir ce qu'il rêvait sous le nom de mondialité, c'est-à-dire la face heureuse de la mondialisation.
Comptait sur la poésie ou sur
beaucoup plus sur la poésie. Et dans la discussion que nous avons eue, je lui ai fait remarquer qu'il comptait tout de même un peu sur le droit, puisqu'il parlait de proclamer l'esclavage crime contre l'humanité. Donc il y avait quand même une référence au droit, et dans son tout monde, il y avait peut-être une place pour un instrument juridique dont il ne connaissait pas en fait le côté bricolage. Et je crois qu'en découvrant la complexité et la modestie d'une certaine manière d'un droit qui ne prétend pas tout régler, mais qui bricole à sa manière, ça l'a ébranlé sur le rôle du droit.
Oui, parce que le poète, ici, se faisait aussi avocat ou procureur, en parlant de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Du point de vue juridique, c'est à la fois important et plus compliqué, sans doute. Mais inversement, vous-même, Mireille Delmas-Marty, on a l'impression que dans cette succession de livres se confrontant à l'actualité, ce qui vous meut, c'est quand même aussi une image poétique, un souffle qui permet de dépasser des complexités symétriques, celles du monde et celles du droit, par des images, par une sorte d'image concrète, d'image vivante.
Ne pas bâtir seulement sur la peur, mais bâtir aussi sur le désir de vivre, sur l'ambition de vivre. Vous savez, c'est la formule, je cite, je crois, quelque part de Teilhard de Chardin, qui dit « ça n'est pas l'effroi de périr qui a lancé les hommes dans la conquête de l'espace et dans la découverte scientifique, c'est l'ambition de vivre », c'est-à-dire à la fois, je dirais, un sentiment de responsabilité, mais aussi une espérance.
Bien sûr, il faut d'abord ne pas mourir, mais aussi faire plus que vivre et créer un monde humain.
Et c'est vrai que la poésie permet de garder l'issue lumineuse quelque part, de garder suffisamment de confiance pour avoir cette ambition de continuer la route, en fait.
Alors continuons la route, Mireille Delmas-Marty, je pense que ça en vaut la peine et que les vents du monde peuvent encore nous soutenir et pas seulement nous menacer. Merci beaucoup pour cette conversation.
Merci à vous, Frédéric Worms.
Merci, Mireille Delmas-Marty. Discussion du soir, Mireille Delmas-Marty, Claire Poinsignon, Jean-Louis Delonte, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms.